me souviens d'André Vims, mais je me souviens surtout de ses yeux. Pas vraiment de leur couleur, marron je crois avec un peu de vert. Mais dans les films d'Harry Korismaki, ses yeux je les trouvais tristes, mi-perdus, mi-étonnés, toujours à vous fixer avec une telle intensité. Je me souviens d'André Vims que j'ai croisé en vrai, un jour par hasard, au bout du monde, sur une petite route de Bretagne. D'abord un peu suspicieux, ses yeux, grands ouverts, entre les cernes et les sourcils. Et puis après un rire tonitruant, quelque chose de délicieux, c'était assez troublant. Comme rencontre, on ne s'était parlé qu'avec les yeux. Quelques mois plus tard, je me souviens d'André Vims qui jouait la fin de L'Homme Rouge de Svetlana Alexievitch au théâtre. Et là encore, je me souviens de son regard. J'avais le sentiment qu'il ne faisait pas semblant, qu'il ne récitait pas et qu'il me regardait droit dans les yeux encore une fois. Je me souviens qu'il disait à un moment, c'est quand même bouleversant, il n'y a plus personne avec une flamme dans les yeux. Je me souviens d'André Vims et dans ses yeux, je me souviens de la haute estime qu'il avait de son métier, de son exigence, du feu qui l'animait.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a-t-il la mémoire du regard? Il est comédien, 515e sociétaire de la Comédie Française depuis 19 ans exactement, 19 ans aujourd'hui. Et il a marqué les esprits et les spectateurs de théâtre sous les traits de Cyrano notamment. On le retrouvera dès lundi dans la deuxième saison de la très bonne série OVNI, où il campe un traqueur d'extraterrestres au cœur de ce qui ressemble à une machination. C'est délicieusement stylisé et barré. Bonjour Michel Villermoz.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Merci à vous.
Tout d'abord, parce que c'est vraiment une question qui me passionne, pourquoi se souvient-on d'un acteur? Vous, avec l'expérience, qu'est-ce qui vous frappe toujours?
On s'en souvient par le jeu qu'il nous propose. Voilà, je me souviens d'acteurs, plein d'acteurs qui m'ont impressionné. Peut-être la voix aussi d'un acteur. Là, on est en train de travailler un texte pour le Studio Théâtre aux Français sur Jouvet et cette voix si particulière de Jouvet. Voilà, on se souvient de lui, je crois, par sa voix, entre autres. Je pense à plein d'autres comédiens, à Gérard de Sarthe, à un acteur italien, Ferruccio Soleri, qui était l'acteur de l'Arlequin de Strehler. C'est des acteurs qui m'ont impressionné.
Quand est-ce que vous avez commencé à les regarder ou à les écouter, justement?
En allant au théâtre, tout simplement, des souvenirs de jeunesse arrivant à Paris, où j'avais été voir Gérard de Sarthe, par exemple, qui était mon prof au conservatoire.
Et qu'est-ce qui vous semblait désirable dans ce métier?
C'était la magie, le merveilleux du plateau, l'histoire qui nous est livrée en direct, avec des mises en scène, je recite Strehler par exemple, ou Mouchkine par exemple. C'est mes premières rencontres au théâtre et mes premiers amours d'acteur.
Quand vous parlez de magie, vous saviez quand même que c'était un travail ou vous avez fini par le comprendre bien plus tard?
On le comprend assez tôt que c'est un travail. En général, on a des profs ou des pédagogues qui nous remettent en place assez vite.
Et justement, quel travail est-ce que c'est, Michel Villermoz? Comment ça se travaille un rôle?
C'est pour chacun différent, c'est petit à petit, c'est un travail très artisanal, c'est un travail sur le sens, déjà essayer de comprendre ce qu'une pièce raconte, ce qu'un rôle trimballe. C'est un long, long travail.
Et ça se travaille de la même façon selon si on est au théâtre, au cinéma ou à la télévision?
Au théâtre, il y a déjà des répétitions qui durent un peu plus de temps. Au cinéma, il y a un rapport à l'immédiateté, à une efficacité. Il faut être tout de suite. Alors le travail se fait en amont. On n'a pas le temps de travailler sur un tournage. Le travail se fait avant ou en direct. Au théâtre, évidemment, le temps de répétition, le temps de maturation d'un rôle est nécessaire, ce qui permet d'atteindre ou pas, de continuer à chercher d'ailleurs avec le public.
Un jour, je vous ai entendu dire, Michel Villermoz, qu'un rôle, c'était d'abord un costume. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, un costume, c'est très important, c'est même des chaussures pour moi.
Allons-y.
Dans le costume. Oui, les chaussures sont très importantes, sont fondamentales. C'est ce qui va donner la démarche, c'est ce qui va donner le rythme aussi. À la Comédie Française, les costumes sont faits souvent avant les répétitions. Donc on découvre le costume qu'on va mettre tout juste au début des répétitions. Donc on se dit, bon, c'est comme ça qu'il va être, alors qu'on est en retard en général. On n'a pas encore assez travaillé pour avoir un choix de costume. Donc le costume nous guide.
Vous souvenez toutes les chaussures? Du moins les chaussures de vos plus grands rôles, Michel?
Ah, je les ai pas, les chaussures, mais elles sont, pour ce qui est de la Comédie française, elles appartiennent à la Comédie française, mais à partir de Cyrano, ces bottes que j'avais étaient, ces cuissardes même étaient fondamentales pour le rôle. Et ce qui m'a aidé énormément à le jouer, enfin, le costume dans son entier, créé par Jean-Michel Lacroix, par Christian Lacroix, pardon.
Oui.
C'est très important. Le costume, pour moi, est très important.
Alors là, vous me tendez une perche monumentale, puisqu'en termes de costume dans OVNI, on est sur du marron et du orange.
Ouais.
À côté, côte à côte, ensemble, on est dans les années 70. Ce sont des costumes qu'aurait pu porter votre père quand vous étiez adolescent. Ce qui était déjà le cas, d'ailleurs, dans le film Les Grandes Ondes de Lionel Bayer. Qu'est-ce qui vous a plu, Michel Villermoz, dans ces années 70? Auquel rend hommage la série OVNI, en tout cas sur le plan esthétique.
Oui, bon, ça se passe en 78, la première saison. La deuxième saison se passe en 79. Donc moi, c'est les années de mon enfance, préadolescence. Je retrouve évidemment dans cette série tout ce que j'ai vécu, en tout cas les souvenirs que j'ai de mes parents, des voitures, de ce qu'on écoutait à la radio, des musiques.
Une certaine légèreté à vous entendre.
Ah, une légèreté incroyable. Je suis nostalgique même de cette légèreté, de cette, on va dire, liberté, même peut-être illusion de liberté.
Michel Villermoz, qu'est-ce qui vous rend léger, vous, dans la vie?
Ah, ce qui me rend léger, oh, c'est de voir mes filles rire. Oui, ça m'a, c'est tout de suite, quand je suis un peu triste, j'ai tout de suite une de mes filles qui, voilà, je les regarde. Et ça me fait rire. Et ça me, voilà, je me dis, c'est formidable.
Et lever les yeux pour regarder le ciel, est-ce que ça vous rend léger?
Ah oui, aussi. Oui, quand il est dégagé de nuages. Oui, aussi.
Ben, je vous pose la question, parce qu'après tout, on ne regarde plus vraiment le ciel de la même façon. Après s'être plongé dans OVNI, où le ciel devient le théâtre de phénomènes paranormaux qui pourraient être liés à l'existence d'une vie extraterrestre. Alors certains y croient, d'autres n'y croient pas, faute de preuves scientifiques. En quoi cette question de la croyance, d'ailleurs, de la vérité, résonne-t-elle particulièrement aujourd'hui pour vous? Parce que le film dit quelque chose, la série dit quelque chose sur aujourd'hui.
Oui, sur une quête de l'au-delà, sur une quête pour revenir d'un contact avec une présence extraterrestre. Après, je crois, moi, beaucoup aux énergies. Oui, énergie fondamentale.
C'est la question que j'ai. En quoi croyez-vous?
Je crois beaucoup, pas forcément aux ovnis, en tout cas, à cette quête des ovnis. Oui, ça, je peux comprendre, ce travail de détective. Moi, je crois beaucoup plus, aux énergies, encore une fois, l'énergie même primaire du Big Bang. D'où vient cette énergie, ces énergies qui nous traverse, ces énergies positives ou négatives sont fondamentales.
Ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, votre rôle, c'est celui d'un homme qui est rattaché à un groupe d'enquête pseudo-scientifique dont le travail consiste à essayer de trouver des réponses. Et dans votre réponse, j'entends qu'il ne faut pas forcément avoir réponse à tout.
Non, c'est ce qui est intéressant, c'est la recherche plus que la réponse. C'est la quête, la quête de l'au-delà, la quête spirituelle, mystique d'un dieu. Voilà, moi je crois aux énergies de l'amour.
Si je vous demande, Michel Villermoz, la question que vous vous posez depuis toujours et qui jusqu'à présent n'a toujours pas trouvé de réponse, ça serait laquelle?
Ah, la question que je me pose toujours.
Et pour laquelle vous n'avez pas de réponse.
Pourquoi?
C'est une bonne question.
Pourquoi?
Celle qui pense avoir réponse à tout dans cette émission, vous la connaissez, Michel, c'est la culture. Et son actualité, Madame, je sais tout, que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 17 février?
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Hein?
Dessine-moi un mouton.
Petit Prince, Grande Expo, le musée des Arts Déco à Paris inaugure aujourd'hui l'événement à la recherche du Petit Prince, la première grande rétrospective française consacrée aux classiques d'Antoine de Saint-Exupéry. Dessins, poèmes, aquarelles, films, coupures de journaux ou extraits de correspondances. L'expo réunit près de 600 pièces consacrées au célèbre blondinet à écharpe tellement parfait. Il y aura le manuscrit original, une première en France.
2022, Berlinale Golden Bear goes to the movie Alcaraz.
De l'or pour Simone. La Berlinale a remis hier son ours d'or à la cinéaste espagnole Carla Simone pour son long métrage Alcaraz sur le monde agricole catalan après Julia Ducournau à Cannes et Audrey Diwan à Venise. Carla Simone est la troisième réalisatrice d'affilée à être sacrée par un festival européen majeur. Dans le même temps, la cinéaste française Claire Denis a été récompensée du prix de la meilleure réalisation pour son film Avec amour et acharnement. C'est grand. Dernier jour du disco King, le chanteur, compositeur et producteur indien Bappi Lahiri est mort mardi à Bombay. Il avait 69 ans, surnommé le roi du disco. Il avait popularisé le genre en Inde dès les années 70-80 en signant de nombreuses musiques de films bollywoodiens, résolument bling bling, chaîne en or, lunettes noires. Il avait aussi collaboré avec des artistes internationaux comme Samantha Fox ou Snoop Dogg sur le titre Patti à la Peg en 2015.
Je suis accusé d'être membre d'une organisation armée, de l'avoir créée, de faire sa propagande, et comme si ça ne suffisait pas, d'avoir porté atteinte à l'unité de l'État et à l'intégrité territoriale du pays.
Et enfin, la journaliste et romancière turque Asli Erdogan, que l'on avait reçue à ce micro, a de nouveau été acquittée par un tribunal d'Istanbul pour la deuxième fois en deux ans. Accusée de propagande terroriste pour avoir signé des articles dans un journal pro-kurde, la femme de lettres dissidente du régime d'Erdogan risquait 9 ans de prison. Après son premier acquittement annulé par les autorités turques, Asli Erdogan avait fui son pays. Elle est désormais réfugiée en Allemagne. Et le comédien Michel Villermoz, invité de Boomerang ce matin pour parler d'incarnation, mais aussi d'écriture, de texte, de scénario. À quoi ça tient pour vous un scénario bien écrit? Parce que je sais que c'est ce qui vous a convaincu de jouer dans la série OVNI, et je suppose que c'est important quand même pour un acteur.
C'est primordial, même, bien sûr. Là, il y avait une qualité d'écriture et un vrai suspense. Moi, je ne suis pas très série, je ne regarde pas trop, mais en lisant le scénario de la première saison, j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait à l'épisode suivant.
C'est pour ça que vous avez accepté.
Oui, aussi, non, c'était très bien écrit. Et puis, Anthony Cordier, le réalisateur, je me sentais très à l'aise avec lui. Melville Poupeau, c'est devenu un ami. Voilà, tout le tournage s'est avéré formidable. C'était un grand, grand plaisir.
Mais la question du texte, elle est quand même fondamentale. Elle se pose d'autant plus qu'avec la comédie française, Michel Villermoz, vous avez la chance de vous confronter à de grands textes. Ces textes, je me suis demandé qu'est-ce qu'il en reste en vous, une fois que vous avez fini de les jouer? Qu'est-ce qu'ils deviennent?
Mais étonnamment, ils disparaissent assez vite.
Ah, c'est vrai?
Oui. Parce que je passe à un autre texte. Donc, y a un travail qui se fait dans l'instant, dans le temps présent. Je garde pas... Après, ça, c'est sans doute des couches successives qui se déposent en moi, mais à mon insu et de façon inconsciente. Je garde pas comme ça de les textes en moi. Enfin,
Par exemple, le rôle de Roy Cohn dans Angels in America, mis en scène par Arnaud Desplechin, un rôle qui m'avait marqué. Michel, rien ne vous habite encore dans ce rôle?
Non, j'espère pas.
Les mots de Cyrano.
Les mots de Cyrano, mais là, j'en sais des bribes. Il y a des choses magnifiques, évidemment, du texte de Cyrano. Mais je n'ai pas le... Je les garde pas en moi. Enfin, en tout cas, où ça se fait peut-être à mon insu.
Votre sensibilité aux mots, comment est-ce qu'elle s'est développée, d'ailleurs?
Votre sensibilité?
Aux mots. Au langage.
Ah, au mot, j'avais compris autre chose, pardon.
Pardon, Augustin. J'en suis pas là quand même.
Non. Mais donc,
ma sensibilité. C'est dingue comme question.
Ah, ma sensibilité au mot.
Ouais.
Bon, alors oui, donc ma sensibilité au mot. J'aime les textes, j'aime la littérature, j'aime la poésie. Oui, j'aime les mots, comment ils déclenchent mon imaginaire, comment ils me transportent, comment ils me touchent.
Et votre sensibilité hétéro?
Oui, on pourrait continuer sur la sensibilité. Voilà, c'était ma sensibilité aux mots. Je vous ai répondu, Augustin.
Quels sont vos premiers souvenirs de lecteur, Michel Villermoz?
Un premier souvenir de lecteur, c'est peut-être Jules Verne, petit. Et puis après, un petit peu plus grand, adolescent, c'est Dostoïevski.
Et qu'est-ce que vous avez trouvé dans les livres, au fond? Qu'est-ce que vous alliez chercher?
C'était une fuite, je pense, adolescent. C'était aller vers un ailleurs, des aventures, donc Jules Verne, et puis après quand j'étais un petit peu plus grand, je pense vers 15-16 ans, d'aller vers Dostoïevski, tout à coup je comprenais pas tout évidemment, mais je trouvais ces histoires incroyables, j'étais pris par, je me souviens d'avoir dévoré Crime et Châtiment, par exemple.
Ce qui est fou, c'est qu'après vous avez voulu en faire presque une carrière et devenir prof de français. Au fond, comment le théâtre et le jeu sont-ils parvenus à vous détourner de ce plaisir, de cette joie, de cette vocation aussi pour la littérature?
Pour la littérature, c'est des rencontres, c'est au lycée, voilà, rencontre, faire un court-métrage, des courts-métrages avec un copain, avec une petite bande comme ça, puis on cherchait un acteur, puis je me suis mis devant la caméra, puis j'ai pris plaisir à faire ça.
Je veux dire que ça a commencé par la caméra et pas par le
théâtre. Non, pas par le théâtre. Après, j'étais inscrit au Conservatoire d'Orléans, et puis après, des cours à Paris, puis je trouvais du plaisir, j'avais l'impression d'exister sur un plateau. Tout à coup, je me sentais à ma place sur un plateau, de façon très maladroite sans doute, mais j'étais bien.
Et devant une caméra?
Alors j'ai mis plus de temps, c'est effrayant, une caméra.
Pourquoi?
Ce gros œil qui vous scrute à l'intérieur... C'est difficile à supporter quand on commence. Après, je crois que l'expérience, les films, la succession des films ont fait que j'ai apprivoisé un petit peu plus l'objet. Mais c'est très difficile. C'est pas ce rapport au public ou ce rapport où on s'adresse à quelqu'un comme je vous parle à vous là, Augustin, où je me sens plus à l'aise que si vous, je parlais tout seul devant une caméra. C'est assez effrayant.
Au fond, à quoi on joue quand on est comédien?
À quoi on joue? On joue à être un autre. On joue comme les enfants, à raconter une histoire. Pour moi c'est ça, à trouver du plaisir, un plaisir à jouer. J'ai toujours ce plaisir, toujours le même, encore plus peut-être même d'ailleurs qu'au début.
Vous arrive de vous dire que rôle après rôle, vous racontez une grande histoire qui serait la vôtre justement, une autre histoire.
Je sais pas si je le résume en ces termes-là, mais en tout cas raconter des histoires. Oui, ça j'ai envie. Raconter des histoires.
On va en entendre une histoire ensemble, là, maintenant. Ah oui, une histoire, et puis il y a une voix, d'ailleurs, que vous avez souhaité entendre ce matin, c'est celle de Jacques Brel, qui me paraît faire un clin d'œil à ma petite nièce qui s'appelle Madeleine. C'était en 1962. Vous êtes sur France Inter avec Michel Villormoz. Boumang!
Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines, Madeleine elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène, Madeleine elle aime tant ça. Madeleine c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime, Madeleine elle aime tant ça, elle est... tellement jolie, elle est tellement douce, elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le 30-33, trop tard pour les frites de chêne, Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime, Madeleine elle aime tant ça, elle est... tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine qui n'arrive pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas, je les ai jetés comme toutes les semaines, Madeleine ne viendra pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma, je reste avec mes je t'aime, Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir, j'attendais Madeleine, tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer chez Eugène, Madeleine ne viendra pas, elle est... elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant tellement tout ça, elle est pourtant toute ma vie, Madeleine qui ne viendra pas.
Mais demain, j'attendrai Madeleine, je rapporterai du lilas, j'en apporterai toute la semaine. Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi. Tant pis si elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Demain, j'attendrai Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Mais Madeleine,
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Madeleine, Madeleine,
ah, qu'est-ce que c'est beau, hein.
On est plutôt du côté du guerriero, d'Alceste, d'Einstein, ou éventuellement à la rigueur de la petite Madeleine. Il est grand, le cheveu perché, l'œil attentif et mobile, pareil à celui d'un oiseau de paradis, avec sa grande doudoune et son sac à dos, le comédien Michel Villermoz, invité de Boomerang ce matin pour parler d'incarnation, de voix aussi. La voix de Jacques Brel, par exemple, qui vous fait réagir, qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qu'elle vous raconte, Michel?
Oh là, c'est lié encore aussi à mon enfance. Mes parents écoutaient beaucoup Jacques Brel, donc j'écoutais avec eux, je trouvais ça absolument magnifique. C'est incroyable. Et maintenant, je peux plus écouter Brel sans pleurer.
Et qu'est-ce qui fait la beauté d'une voix pour vous, comédien?
Là, c'est un ensemble. Pour Brel en particulier, évidemment que c'est l'homme, c'est sa voix, c'est son énergie. C'est la beauté de ses textes, l'émotion de ses textes, c'est un ensemble. Et puis les interviews de Jacques Brel, je repense à ces radioscopies de Jacques Chancel, voilà, de cette époque-là aussi, c'est des années 70.
C'est intéressant quand même, vous avez parlé de voix au tout début de cette émission, on en reparle là maintenant. Quel outil est-ce que c'est la voix pour un comédien, Michel Villermoz?
C'est fondamental.
Ça se travaille.
Ça peut se travailler. Moi, j'aime bien avoir des voix différentes selon les personnages que je joue. La voix peut être un masque. Vous en savez quelque chose à la radio, je crois.
Mais jusqu'à quel point parvenez-vous à la changer?
Alors, elle se fait. C'est pas forcément de façon consciente, mais j'essaye de parler. C'est un rythme d'abord et une tessiture de voix que je pense adaptée au rôle. Je parlerai pas de la même façon si je joue Tartuffe ou Cyrano ou Roy Cohn.
Alors justement, tout à l'heure. Trouver la voix d'un personnage, par quoi ça passe? Comment vous vous y prenez? C'est à partir des pieds encore?
Ça peut-être. Être à partir des pieds. Ça se fait de façon. C'est encore aussi assez inconscient ou c'est petit à petit. Je sens une nécessité de toute façon de changer ma voix. Je peux pas avoir la même. Roy Cohn ne parle pas comme Cyrano. Cyrano ne parle pas comme Tartuffe ou tous les rôles que j'ai pu jouer. Ils ont un rythme, et encore une fois, il y a des rôles qui nécessitent une voix peut-être un peu plus aiguë, ou d'autres plus graves, plus dans le médium, un débit plus rapide ou plus lent. Tout dépend du rôle, et je sens qu'à chaque fois, il faut changer de voix. Je parlerai jamais, attention, c'est très nuancé. Mais c'est très important.
Si je vous parle de voix, c'est aussi parce que je connais votre goût pour la lecture à haute voix. Je pense par exemple à vos lectures de La Recherche du Temps Perdu, auxquelles d'ailleurs tout le monde peut avoir accès sur Internet. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans ce partage-là?
C'est pour moi essayer de faire entendre au plus près la voix de l'écrivain.
Oui.
D'abord, la voix de l'auteur.
Vous dites parfois, et je trouve ça très beau, la création d'une communauté de sentiments. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Est-ce que je vais arriver à faire entendre la pensée, le sentiment, l'émotion d'un auteur? Comment y arriver? Pour arriver à m'effacer suffisamment pour être simplement le vecteur le passeur d'un auteur
et pour rassembler
au lecteur
aussi.
Rassembler ça, je suis pas maître d'œuvre pour rassembler.
Mais c'est ça, mais une communauté.
Oui, mais j'essaye en tout cas de faire entendre au plus près. Et si c'est un grand auteur, ça doit toucher le plus grand nombre, la communauté.
Vous vous rendez compte de la pression que vous vous mettez là?
Oh, c'est pas, je mets pas cette pression. C'est un travail qui se fait de descendre en moi au plus près de ce qui me semble juste par rapport à l'auteur.
Non, mais là, maintenant, tout de suite, parce que vous allez nous lire un texte.
Ah, je vais lire un texte.
Ah, bah, bien sûr. Un texte de l'auteur espagnol Manuel Vilas dans une si belle traduction d'Isabelle Gugnon, la première page d'Alegria.
Avec plaisir. Tout ce que nous avons aimé est perdu. Que nous avons aimé énormément, que nous avons aimé sans savoir qu'un jour on nous l'enlèverait, tout ce qui, une fois perdu, n'a pas pu nous détruire, bien qu'ayant insisté en y mettant une force surnaturelle et cherché notre ruine avec cruauté et obstination, finit tôt ou tard par se changer en joie. L'âme humaine n'aurait pas dû descendre sur terre. Elle aurait dû rester dans les hauteurs, les abîmes célestes, les étoiles, l'espace profond. Elle aurait dû rester éloignée du temps. L'âme humaine aurait été meilleure sans être humaine, car l'âme vieillit au soleil, s'étiole, s'enfonce et se consume en millions de questions éparpillées à propos du passé, du présent et du futur qui forment un seul temps, propre à chacun de nous. Un temps où l'amour est un désir permanent qui ne se réalise pas, nous prévient de la beauté de la vie, et puis s'en va. Il s'en va. Il nous laisse dans un silence puissant, amer et subtil. Des millions de questions qui ont été des humains avant de devenir des questions, des millions de corps, des millions de pères, de mères, de fils et de filles, et nous demeurons seuls, et transi. L'âme humaine, c'est nous. Nous tous, cherchant de l'amour, cherchant tous à être aimés chaque jour et attendant chaque jour la venue de la joie. Qu'attendre d'autre sinon? Comme nous aimerions tous que la vie ait un ordre et un sens, alors qu'elle n'est faite que de temps et d'adieux fugitifs, et que dans ces adieux vit l'amour immense que je ressens à présent. Tel est mon chaos, tel est mon désordre. Manuel Vilas. C'est beau, hein?
C'est un texte extraordinaire.
C'est beau, c'est la première page d'Alegria. C'est un grand auteur, Manuel Vilas.
Quand il parle de la joie, Michel Villermoz, vous aussi, vous l'attendez chaque jour, la joie?
Oh, je ne sais pas si je l'attends. Des fois, je suis surpris, oui, par la joie.
Parce qu'il arrive qu'elle ne vienne pas.
Oui, comme dit Manuel Vilas, à un moment, je préfère la joie à l'état heureux. On parle du bonheur, on parle d'être heureux. J'aime bien, c'est plutôt de parler de moments de joie.
Se peut-il qu'elle se provoque, la joie? Qu'est-ce qui vous met en joie, vous?
Ce qui me met en joie, c'est des choses assez simples. C'est le sourire des autres. Les sourires sont rares hein, par les temps qu'on traverse, mais les enfants, le sourire, le rire des enfants, la joie des enfants, ça me met en joie vraiment, la pureté des enfants, cette chose encore vierge et qu'il faut protéger.
Ce qui est intéressant dans le texte que vous venez de nous lire, c'est aussi qu'il nous parle de silence. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour un comédien, le silence, Michel Villermoz?
C'est presque le plus important,
oui.
Le silence, entre les mots. Et puis le silence, on n'est malheureusement pas dans un monde de silence. C'est difficile, surtout en ville, d'avoir le silence. Mais il est important pour tout simplement se reconnecter, un peu être avec soi-même.
Mais qu'est-ce qu'on peut raconter par un silence?
Tellement de choses, par un regard silencieux, tout ce qu'on peut raconter, tout ce qui peut se transmettre, tout ce qui peut se raconter simplement dans un silence.
Merci infiniment, Michel Villermoz, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que la saison 2 d'OVNI, de Clémence D'Argent et Martin Douai, réalisée par Anthony Cordier, avec Melville Poupeau, que vous avez cité, Daphné Patakia, Quentin Dolmer, formidable, Géraldine Pellas, évidemment, sort lundi sur Canal, tout de suite les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça. Sarah Joe, Alex Cameron, il est 9h40 sur France Inter et c'est l'heure de Sonia De Villers, l'Instant M. Ça va Sonia?
Ah mais oui, ça va Augustin. Bon ben on se retrouve demain, moi je vais vous faire écouter Augustin, la voix de Jean Manant. Jean Manant, ça a été l'ancien patron du Canard Enchaîné. Et à l'époque où je vous le fais écouter, cette archive, c'était un écrivain, il faisait le show sur le plateau d'Apostrophe.
Génial.
Devant Pivot.
Allez, on écoute.